notre site internet francefacile.rfi.fr. Bonne soirée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Radio G.
Bonjour, c'est Bernard Werber.
Bonjour à tous, je suis Clémentine Mauvais.
Bonjour, je suis Alain Hirol.
Hi everyone, Mark Miller here.
Les 27, 28 et 29 septembre, Angers accueille Cultissime, le tout premier festival international des œuvres cultes. Trois jours de rencontres, dédicaces, animations, jeux et spectacles au cœur des romans, bandes dessinées, comics, mangas et adaptations qui ont marqué nos vies. Fans d'Harry Potter ou d'Alexandre Dumas, admirateurs de Balzac ou d'Alan Moore, incollables sur Victor Hugo ou sur Dragon Ball, venez partager votre passion. Plus de 50 invités prestigieux vous attendent à Cultissime les 27, 28 et 29 septembre à Angers. Vous pouvez également contribuer au prix Cultissime en vous inscrivant à notre académie. Informations et billetterie sur cultissime.org.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Ça y est, ça sent la fin. L'été n'est pas tout à fait là, mais là on entend les grillons tellement il y a plus personne avec nous en studio. Bonsoir Nolwenn. Ah bah on t'entend même pas. T'es bien là.
Ah, on m'entend ?
On t'entend.
Ok, d'accord.
T'es la dernière qui reste, on a perdu toute l'équipe là quasiment. Renaud, Franck.
Oui, c'était la fin de leur stage. C'est très triste, je me retrouve toute seule à mon bureau maintenant.
Voilà, et tu vas nous accompagner jusqu'au bout. Topette, la dernière semaine de la saison. On va continuer avec des actualités assez fortes, puisque demain on va parler de Temporive. La ville d'Angers sera avec nous, Cécile Davoust, entre autres. Mercredi, on va parler des dernières actualités loirotiennes, du côté de la commune de Loire-Authion. Tout est dans le nom. Et jeudi, on va se mettre à nu, puisqu'on va recevoir, comme l'année précédente, comme la saison précédente, l'association Nat Anjou, l'association naturiste en Anjou. Là aussi, tout est dans le nom. Ce soir, eh ben voilà, de quoi prendre déjà rendez-vous. On va parler du festival du sous-marin organisé par la compagnie du Poulpe. Et Anne-Claire Joubert est avec nous pour nous présenter un petit peu le festival, parce que c'est pas juste des représentations de théâtre, c'est aussi un marché de créateurs et de créatrices. Et c'est surtout dans un cadre, j'allais dire exceptionnel, mais en fait c'est, on veut que ce soit dans un cadre pas ordinaire. Ce sera au château de Briançon, ce sera à partir du 19 juillet jusqu'au 21, tout le week-end en gros. Et d'ailleurs Radio G normalement devrait animer un plateau là-bas. Elle va nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer exactement au cours de cette émission aussi. Alors non, la Minute Sport c'est fini, on partira en balade avec Camille du côté du Mont des Avaloirs. On aura aussi l'agenda culturel avec Tiffany, on va faire un petit peu de sport, et puis le collègue Fahadi, s'il nous écoute, viendra pour nous tirer un premier bilan de la fin de saison de J'ai la ref aussi, l'émission qu'il anime le jeudi à 13h. Topette, c'est parti.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Et beaucoup d'actu aussi encore et toujours couverte par toi, Nolwenn. Rebonsoir Nolwenn.
Rebonsoir.
On commence avec le Héron Carré qui a été attaqué par des militants ce week-end.
Ce samedi, une manifestation était organisée contre la présence des Blancs de l'Ouest au Albiltoki, un commerce identifié comme proche de l'extrême droite. Ce même jour, les Halles fêtaient aussi leur premier anniversaire. Alors les proches du commerçant étaient aux aguets pour surveiller que tout se passe bien. Les manifestants de leur côté ont protesté dans le calme. Tout semblait donc s'être bien déroulé jusque-là. Mais dans la soirée, la situation a dégénéré lors d'un concert à la guinguette du Héron Carré. Selon le gérant, un groupe de personnes armées y est entré. Ils s'en sont pris physiquement avec une partie des personnes présentes. Un homme aurait été interpellé sur place pour outrage à agent. La guinguette a décidé de porter plainte.
Dans le même registre, un suspect de l'attaque du bar Le Bazar à Angers, finalement relâché.
Et oui, un homme de 21 ans est passé en comparution immédiate ce lundi à Angers. Il lui est reproché d'avoir dégradé volontairement le bar Le Bazar lors de la manifestation lundi dernier, également contre l'extrême droite. Un bar qui est identifié par les antifascistes comme un lieu de rassemblement des membres très proches de l'extrême droite. Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. En attendant, le procès qui aura donc lieu le 5 juillet, il n'a plus le droit de paraître dans le Maine-et-Loire.
Attention Nolwenn, tu débordes comme la crue de 1900. 1995 à Angers et justement un appel à témoignages est lancé pour les 30 ans.
Il y a bientôt 30 ans, la crue du siècle, comme on la surnomme, avait englouti les rues d'Angers. Elle a marqué à coup sûr tous les Angevins. C'était le 30 janvier 1995. La Maine avait alors atteint les 6,69 m au niveau du pont de Verdun. Le syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Rome organise donc une grande collecte de photos et vidéos pour un événement l'an prochain. Vous pouvez donc témoigner ou transmettre vos documents jusqu'au 12 juillet à l'adresse contact@smbvar.fr.
Voilà, jusqu'au 12 juillet. Est-ce qu'on va avoir un temps demain qui va justement remplir les cours d'eau et faire déborder peut-être la Maine ?
Le temps sera assez similaire demain. Des averses sont à prévoir tout au long de la journée. Demain, le ciel sera très nuageux et les températures comprises entre 16 et 24 degrés. En parlant du ciel, un hélicoptère d'Enedis va survoler à basse altitude certaines communes du département entre le 20 mai et le 27 juillet. L'hélicoptère bleu et gris doit effectuer la surveillance des lignes électriques. Côté circulation, des ralentissements sont à prévoir dans le sens Angers-Cholet sur l'A87 à hauteur de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Du foin dans les granges, deuxième date, c'est du 19 au 20 juillet. Alors ce sera, ouais, on peut faire les deux normalement avec aussi le festival Le Sous-Marin, puisque c'est plutôt musical cette fois-là. Ça se passe du côté de Saint-Laurent-du-Motet, flamenco, pop, folkabilly, country, blues, cirque, danse, un petit peu tout ce qu'il faut. Et voilà, on était avec toute l'équipe organisatrice la dernière fois. On vous renvoie vers le podcast du mois passé et Madame Sans Gêne, hein, toujours le spectacle de la Compagnie du Pont d'Ardoise fin juin, à partir du 25 juin. Au château de la Laurie jusqu'au 30 juin à partir de 21h. Commencez à réserver parce que, à mon avis, il va plus y avoir beaucoup de place. Et si vous n'aviez pas déjà assez de choix, voilà de quoi aussi se faire une nouvelle proposition avec notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Anne-Claire.
Bonsoir.
Anne-Claire Joubard de la Compagnie du Poulpe qu'on connaît bien dans cette émission. On va bien évidemment parler de la 5e édition du Festival du Sous-Marin, édition anniversaire. Ça va se passer les 19, 20 et 21 juillet du côté du château de Briançon. C'est sur la commune de Bonnet, Cornet ? De Bonnet.
De Bonnet, ouais.
On est à Loire-Authion, peut-être qu'on en reparlera mercredi, qui sait. Nous, on sera là-bas, en tout cas, le soir de l'ouverture à partir de 18h30 sur cette même bande FM, le 101.5 FM. Alors au programme des spectacles, on répète Andromaque, les chaises, le marathon théâtral, mais aussi et surtout un marché de créateurs-créatrices, avec des habits, cosmétiques, bijoux, un petit peu tout ce qui se fait de bien localement, mais ça, pareil, on va pouvoir en reparler. Avant tout ça, on va redonner un petit peu de contexte sur la Compagnie du Poulpe, qui fait parler d'elle, qui est bien ancrée dans le territoire tout de même. C'est une troupe de joyeux copains, copines, qui propose des choses intéressantes théâtralement. Imaginons Anne-Claire. Peut-être que Nolwenn n'a jamais entendu parler de la Compagnie du Poulpe parce que bah il y a une culture à refaire. Comment tu présenterais les choses ?
Alors bien bonjour. Donc la Compagnie du Poulpe, c'est une compagnie de théâtre professionnelle qui est basée à Blaisongoyer, donc près de Brissac-Quincé, Loire-Authion, tout ça. Et en fait, on est trois au sein de la Compagnie du Poulpe. Donc il y a moi, il y a Quentin Mousserion et Oriane Moretti. Et en fait, on est une bande d'amis, comédiens, metteurs, metteuses en scène, chanteurs, écrivains. On a plusieurs cordes à notre arc. Et en fait, on s'est rassemblés pour créer des spectacles avec un fort engagement, je dirais, à la fois politique, philosophique et littéraire. On aime bien les textes, monter des textes classiques. Les écritures contemporaines, c'est pas trop notre dada. Donc nous, on est très Kafka, Ionesco, Racine. Donc ça, c'est toute la partie spectacle. Et puis avec la compagnie, on fait beaucoup d'ateliers théâtre, d'ateliers mise en scène. On aime bien ce va-et-vient entre les habitants et nous dans tous nos ateliers. Et puis il y a ce festival qu'on a créé il y a 5 ans où on essaye de condenser sur un temps très précis. Toutes nos aspirations et tout ce qu'on aimerait voir, nous, en fait, dans un festival.
Tu évoques les valeurs portées par la Compagnie du Poulpe, Anne-Claire, politique, tout ça, et puis un peu théâtral aussi, la vision, plutôt le classique, si on a bien compris, avec Andromaque, hein, tout est dans le nom, ça renvoie vers la Grèce antique, me semble-t-il, en tout cas. Et puis il y a aussi cette volonté de proposer des choses à taille humaine, c'est-à-dire ne pas forcément avoir pour ambition de remplir des zéniths, enfin même je sais pas si ça arrive à des compagnies théâtrales, mais on n'est pas sur cette dynamique-là, on veut plutôt se rapprocher au contraire.
Oui, c'est ça, on veut se rapprocher au maximum. Nous on a des spectacles intimistes, donc les jauges peuvent aller, on joue chez l'habitant, on joue dans des salons, on joue dans des jardins, mais aussi dans des salles, par exemple, de 90 personnes. Après, il y a des spectacles qui se prêtent à des plus grosses salles, mais on a toujours un dispositif en tête qui fait que, même si on joue dans une grosse salle, on va conclure la forme par quelque chose qui innove un peu, et ça va faire en sorte qu'on va créer directement du dialogue avec les spectateurs. On n'est pas du tout dans le fait de jouer et de partir. Ça nous convient pas. On a besoin de savoir de parler, en fait, de savoir à qui on a affaire. C'est qui ce spectateur, cette spectatrice. Et donc toutes nos créations sont vraiment dans cet esprit-là d'être un peu tout terrain et de jouer et de vraiment d'échanger avec les gens.
Ce sont tout de même deux grosses prises de risque quand comme ça on monte une compagnie et qu'on veut proposer des choses, parce que on cherche ni les grandes salles avec la foule et donc aussi potentiellement des rentrées d'argent, et puis en plus les pièces choisies plutôt classiques. Pourquoi ces choix-là? C'est vraiment on se fait plaisir d'abord.
Ouais, c'est ça. On se fait plaisir d'abord, et moi je pense que c'est par la contrainte qu'on trouve une liberté, et je pense que c'est parce que nos choix sont comme ça et qu'on les assume jusqu'au bout qui fait que en fait ça se fait. Après, il y a des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et on a plutôt la philosophie de, si on assume jusqu'au bout nos valeurs, eh bien, on y arrivera. Après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on n'en cherche pas du tout une sorte d'élitisme dans la pratique de l'art. Au contraire, on est le Festival du Sous-Marin, il est vraiment, on dit qu'il est fait de briques et de brocs et de trucs et de machins, et en vrai, c'est tout à fait notre esprit.
Oui, voilà, ça reste quand même très accessible, même à des personnes qui n'ont pas lu Phèdre ou sais-je. Voilà, ça reste accessible. Peut-être un mot sur vos parcours aussi respectifs, dans les grandes lignes. Vous venez du conservatoire, de quelque chose de très classique, justement, peut-être. C'est comment vous en êtes arrivé à ces rencontres et puis à cette idée de la compagnie?
Alors, avec Quentin, on a le même parcours. On a fait le conservatoire à rayonnement régional d'Angers pendant 3-4 ans. Et on avait deux professeurs vraiment très différents. Donc, on avait Stanislas Sofanor, qui avait une approche avec les textes classiques, qui était très dans le plaisir de jeu, et Clémence Larsimon, avec plus des textes contemporains, et qui nous a amené une rigueur dans le travail. Monter sur un plateau, c'est quoi? Enfin, et en fait, les deux réunis, ça fait qu'on a eu, pour moi, une formation très complète. Et donc, pour le coup, nous, on a fait des études de théâtre. On a fait le choix de pas aller en école nationale avec Quentin. Ça nous intéressait pas, les grandes écoles. On voulait pas habiter à Paris. On voulait rester.
Les cours Florent, tout ça, non, merci.
Non. Non, merci. Et ensuite, Oriane Moretti, elle a un parcours complètement différent. Elle vient, elle était prof de français à la base. Et puis, elle s'est reconvertie. Et puis, elle nous a rejoint, en fait, tout simplement. Mais au sein de la compagnie du Poulpe, il y a vraiment des profils très différents. Par exemple, la prochaine création, on a un improvisateur qui va jouer avec nous, qui se coltine du texte. Donc vraiment, on n'est pas très regardant sur la formation, mais plutôt sur ce qui se passe au plateau et les valeurs humaines qu'on partage.
Voilà, rester proche des spectateurs, spectatrices, mais aussi entre compagnons, compagnonnes de jeu, quoi. On cherche à avoir des liens sincères avant tout.
Oui, c'est ça.
Ça promet de belles choses, du coup, pour le Festival du Sous-Marin. Pareil, si vous ne connaissez pas la 5e édition, on en parle dans quelques instants sur le 101.5 FM. Juste avant, on écoute Le Mystère Abyssal de MPL. MPL, pas PNL. MPL.
A déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'elle se la coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie. Au début, elle nous parlait par radio, la descente semblait belle mais assez vite on a perdu sa trace et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignent la surface. On s'est retrouvés seuls avec nos questions insondables. Combien de temps va-t-elle passer là-bas? Est-ce qu'elle va y rester? Pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi c'est pas tombé sur moi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça doit venir de moi? On attendait le gong et les heures étaient de plus en plus longues. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'elle se la coule douce. Bien sûr qu'elle se la coule douce. A coulé sous les pontons et le temps a repris son cours. On a romancé un peu, c'est vrai, mais le souvenir de cette expédition nous poursuivra toujours. On voulait faire un peu de place aux mystères et aux aventures. Qui veut voyager loin ménage ses blessures. Et on y repense parfois quand il arrive que l'un de nous décroche et se retrouve arraché loin quand on le croyait proche. Quand l'un de nous disparaît sous la surface pour quelque temps qu'il perd.
Le mystère abyssal de MPL, donc, à l'écoute de Topette.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Et ensemble ce soir avec toi, Anne-Claire, on évoque la 5e édition, bon anniversaire, du Festival du Sous-Marin, à partir du 19 juillet et pendant tout le week-end, donc le 20 et le 21 également, du côté au château de Briançon. Alors j'imagine que ce sera plutôt en extérieur, en espérant que les conditions météorologiques soient pas trop mauvaises. Hein.
Oui, mais on a un lieu de repli pour chaque spectacle, donc.
Parfait. Oui, j'imagine qu'il y a de la place. Si c'est un château, c'est qu'il doit y avoir au moins une petite salle de disponible. Alors du théâtre, de la musique, un marché aussi. Alors c'est un peu étonnant. C'est quoi le concept de ce festival du sous-marin? Parce que je crois que le nom est évocateur. Hein. Dans l'idée, ça renverse les choses.
Oui, c'est ça. Alors pourquoi le festival du sous-marin? La toute base, c'était vouloir embarquer les gens dans l'envers du milieu culturel, c'est-à-dire programmer des gens, des artistes locaux, et de rallier l'étymologie artiste et artisanat, artiste et artisan. Et donc, comme nous, en plus, on travaille avec nos 10 doigts et nos bouts de ficelle, c'est vraiment l'idée d'embarquer dans cet engin qu'est le sous-marin et de plonger dans une philosophie, dans une décoration, dans des spectacles. On voulait des spectacles poétiques, politiques et sensibles. Et donc voilà, on a trouvé ce nom sous-marin.
Et ça attire du monde. Hein. Il y a toujours des curieux, curieuses. Il y a toute la famille aussi. Puis j'imagine que quand on crée du lien comme ça avec les spectateurs et spectatrices, forcément, bah, ça fidélise aussi.
C'est ça, ouais. Et c'est ça que j'aime bien avec le festival, c'est que j'adore les Angevins, hein, mais il y a très peu d'Angevins à ce festival. Et c'était aussi mon but, c'était vraiment de proposer ça aux habitants à chaque fois. Et à chaque fois, c'est vraiment des gens à 15 km à la ronde qui viennent en vélo, qu'on connaît pas forcément, ou alors qu'on s'est croisés sur des ateliers, au coin d'une rue. Et en fait, ça fait les festivaliers du festival, donc ça c'est hyper top.
Oui, quand tu dis Angevins, c'est les habitants d'Angers en fait.
Oui.
Voilà. Mais du département, c'est bien des gens qui sont de Bonnet, par exemple.
Oui, tout à fait.
Et tout ça. Alors, c'est au château de Briançon. Et d'ailleurs, il y a une visite guidée du château de Briançon. Parlons du lieu qui a aussi son importance, son intérêt pour l'âme du festival.
Tout à fait. Là, c'est la cinquième édition. Donc, c'est un peu une édition anniversaire. Et je crois qu'il t'appelle.
Oui, je t'appelle, Nolone. Si tu peux fermer la fenêtre parce qu'on a un roucoule sauvage qui parasite les propos d'Anne-Claire. Vas-y, on s'est interrompu.
Et du coup, donc c'est la 5e édition anniversaire et on voulait un très beau cadre, fêter ça. Et en fait, le château est venu vers nous à la base pour nos spectacles. Et en fait, en échangeant, on en est venu à parler de ce festival et eux, ils étaient intéressés pour accueillir des événements. Et en fait, la collaboration s'est fait comme ça. Donc, on est ravis d'être dans ce château où il y a des chambres qui sont proposées aux festivaliers. Donc, ils peuvent avoir une offre spéciale de la part du château. Ils peuvent avoir une chambre à prix réduit, des spectacles à prix réduit. Donc, il y a vraiment tout un partenariat.
On peut rester les 3 jours, en fait,
oui,
là.
Vous pouvez dormir sur place cette année.
Un camping aussi, non?
Il n'y a pas de camping, mais il y a des chambres incroyables.
Ah, vous avez essayé les chambres peut-être avant de vous
être. On va dormir dans le château, nous.
Ça, voilà. C'est classe. C'est alors, classe. Bon, les visites guidées du château pour découvrir l'histoire, les chambres dans lesquelles on va pouvoir choisir de dormir aussi. On a parlé des créateurs du marché qui aura lieu. Alors, tu me parlais de beaucoup d'habits, de cosmétiques et de bijoux cette année. Et puis, en plus, c'est pas les mêmes que l'année précédente.
Oui, c'est ça. Tous les ans, on lance un appel à artisans et artisanes. Et il y en a qui reviennent, bien sûr. Il y a, je pense, à Marion Colombel Création qui revient. Il y a Verpiment qui revient et qui nous suivent depuis 5 ans. Donc, c'est vraiment des artisanes, pour le coup, qui sont très fidèles. Et on a des nouveaux, des cosmétiques, des gens qui fabriquent des cosmétiques bio. Il y a de la poterie, il y a des photographes, il y a une peintre. Donc, ça va vraiment être différent des années précédentes. Et c'est plutôt chouette. Comme ça, ça crée aussi un renouvellement dans les artisans. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de monde et que tout le monde a un peu besoin d'être en lumière à un moment T. Donc, c'est chouette.
Et de la musique, et des troupes de théâtre amatrice aussi, une qui vient de Saint-Mathurin. On a le conservatoire également. Donc, on essaie de, c'est pas réseauter le mot, mais on essaie de, voilà, d'impliquer aussi les partenaires avec lesquels on travaille habituellement, peut-être.
Oui, oui, c'est ça. Mais en plus, cette année, pour la 5e édition, on voulait vraiment condenser tout ce qu'on fait. Et donc, le théâtre amateur, nous, on met en scène les amateurs. Le théâtre de Saint-Mathurin-sur-Loire, c'est moi qui les mets en scène, les adultes. Donc, naturellement, je leur ai dit, mais venez, on fait une scène amatrice cette année, venez jouer. Donc, ils ont accepté. Il y a le groupe d'Anne-Claude et de Benjamin Tudou, de la compagnie Nondimbouc, qui font des ateliers au champ de bataille. Je suis intervenue au champ de bataille. Bien sûr, accueillons leurs élèves. Et en fait, le Conservatoire d'Angers, on veut vraiment amener cette dimension semi-professionnelle avec la forme. Donc, on a le théâtre amateur, le Conservatoire d'Angers qui va nous parler de c'est quoi leurs études, c'est quoi leur aspiration à être comédien. Et puis, les spectacles de la compagnie ou avec une professionnalisation de notre pratique.
Et la musique aussi?
Et la musique, ouais. Donc, ça sera en première partie de festival à 18h30. Ils ouvrent le festival. Donc, il y a 2 concerts, un le vendredi, un le samedi, et une scène ouverte amatrice le temps du midi.
Alors, Anne-Claire, ce qu'on pourrait faire, on va pas parler trop de On répète Andromaque, parce que nous, on sera sur place, du coup. Il y aura aussi le plateau radio à partir de 18h30. C'est l'horaire d'ouverture du festival. Parlons peut-être des chaises et du marathon théâtral qui, parce que là, t'as fait peur à Nolwenn, hein. T'as parlé de classique tout à l'heure et tout. Et je sais pas, Nolwenn, t'es peut-être pas branché classique ou théâtre.
Non, pas tellement, donc.
Et pourtant, c'est des choses, on l'expliquait aussi, qui sont accessibles, qui permettent, il y a quand même un volet divertissement malgré
oui,
tout, hein.
Oui, c'est, tous nos spectacles sont accessibles et compréhensibles, d'une certaine façon. Les chaises de Ionesco, donc on est sur une farce absurde de 55 minutes. Et en fait, ça raconte tout simplement 2 personnages qui sont sur une île déserte. C'est les seuls survivants de l'humanité, parce que ça s'est bien pété la gueule tout autour. Et ils sont là, ils font « Ah, mais en fait, on attend quelqu'un qui va nous délivrer un message et on est sûr que ce quelqu'un va nous sauver. » Donc nous, on a monté cette pièce, donc c'est Oriane Moretti à la mise en scène, tout le décor est en matière récupérée, on est 3 au plateau, et on l'a monté vraiment, on a eu l'idée avant le Covid, et c'était hyper fort que pendant le Covid, on attendait un peu toutes les semaines ce que Emmanuel Macron allait dire, et nous on montait les chaises en même temps, et non mais c'est incroyable les liens qu'il y a entre cette attente d'une personne qui va normalement sauver tout le monde. Et puis, en fait, à la fin des chaises, si vous venez voir, vous verrez qu'est-ce qui se passe.
Mais pas de spoil, hein.
Voilà. Mais en tout cas, pendant 1 heure, on attend quelqu'un. Donc, en soi, c'est très simple à comprendre.
Il y a le marathon théâtral aussi. Alors, on sait que sur Angers, il y a eu des pièces de théâtre de 24 heures, même un peu plus. Non, 24
oui,
heures.
Oui.
On est sur un marathon, là aussi, littéralement.
Oui. Alors, c'est un marathon. Donc, en fait, c'est une forme où, donc là, pour ce marathon théâtral, pour le Festival du Sous-Marin, pendant 4 matinées, on va répéter avec des stagiaires entre 10 et 17 ans. Il y a 2 comédiens professionnels au plateau avec eux. Moi, je les dirige. Et on a 4 jours pour créer une forme autour des Jeux Olympiques. Donc on va, ils sautent, ils font des pompes et on lit des textes sur le sport, le lien entre sport et art. Et à la fin, il y a une récitation sur le festival.
On reste au raccord un petit peu avec 2024 grâce à ça. Les infos pratiques, on va les donner. On va aussi parler de joie. Il y a des sorties en forêt, des spectacles de marionnettes, de la lutherie sauvage. Tout ça, c'est juste après. On va justement faire une grande balade en forêt du côté du Mont des Avaloirs avec Camille.
Envie de partir en vadrouille ? Viens, je t'emmène avec moi. Pour toi, la Mayenne, c'est quoi ? Des plaines, des ruisseaux, des petits villages de campagne et trois villes, Laval, Mayenne et Château-Gontier. Mais si je te dis que la Mayenne, c'est aussi des montagnes, des randonnées perchées, des points de vue et des forêts à n'en plus finir ? C'est parti, direction le Mont des Avaloirs. On emprunte en voiture des routes pentues, sinueuses, étroites, jusqu'à l'entrée d'une forêt. À gauche, un chemin goudronné que nous prenons, toujours en voiture, et qui nous mène vers quelques places au Mont des Avaloirs. Nous nous garons sur le côté et continuons de remonter la route à pied. Des tables de pique-nique, des poubelles de tri, des panneaux d'information et une expo de photos nous font comprendre qu'en pleine journée, il doit y avoir du monde ici. Il est tôt, il n'y a personne et un petit vent frais vient fouetter nos visages. Devant nous se dresse le belvédère, large, avec sa coupole qui termine sa structure, comme un bol d'offrande aux cieux. Sa structure en béton dénote avec la nature environnante. On s'y approche. Sur ces murs, nous découvrons des œuvres de street art colorées. Montons. Un étage, deux étages, trois étages. L'air est de plus en plus frais. Nous sommes en plein milieu de la nature. Arrivé en haut, le spectacle est magique. De la forêt, des plaines au loin et du vert partout. Profitons de cet instant de calme avant de redescendre débuter une petite randonnée. 8 km de randonnée, répartis sur beaucoup de forêts et un peu de champs. Uniquement des sentiers piétonniers. Sur la route, on espère croiser un chevreuil, mais tout ce que nous verrons, ce sont des hordes d'oiseaux qui chantent dans les sous-bois et un vieux bus abandonné dans la nature qui sert peut-être aujourd'hui d'abri de chasse. Cette randonnée, c'est des côtes, des troncs d'arbres à enjamber, des ronces à éviter, mais c'est surtout une belle reconnexion à la nature, avec pour seul compagnon le silence et la verdure. Une dernière remontée vers les places de parking du belvédère du Mont des Avaloirs et retour à la vie quotidienne, retour à la voiture. Cette balade nous aura fait du bien. Pas encore rassasié ? Sur la route du retour, tu peux t'arrêter à Saint-Céneri, son architecture atypique, son ambiance village de montagne, son petit ruisseau et sa chapelle perdue en plein milieu d'un champ. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Bisous !
Et si vous êtes un petit peu pressé, toutes les explorations angevines avec Camille sont à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet. Une exploration que vous allez pouvoir faire du côté de Bonnet à partir du 19 juillet, c'est celle, vous allez partir sous les océans avec le sous-marin, le festival du sous-marin 5e édition. On est toujours avec toi Anne-Claire de la Compagnie du Poulpe qui organise donc ce festival, cette 5e édition anniversaire. Est-ce que au-delà de la configuration peut-être un petit peu plus renforcée des propositions théâtrales, musicales avec les partenaires, les personnes, les artisans, artisanes, est-ce qu'il y a un temps fort de prévu pour ces 5 ans, un gâteau par exemple ?
Oui, il y a un gâteau. C'est le dimanche. Pour clôturer le festival, c'est le dimanche à 16 ou 17 heures de mémoire. Et en fait, il y aura un gâteau, on souffle les bougies.
Alors, qui aura le droit de manger le gâteau parce que...
Alors, il y a les gens qui peuvent amener leur goûter. Pour faire, en fait, on fait un gros goûter. Et il y a un gâteau et pour le coup, il sera frit. Enfin, vraiment, et ça, j'aimerais bien, c'est encore dans ma tête, un gâteau en poulpe. J'imaginais un grand financier avec des tentacules en... Voilà.
Ouais, Nolwenn, t'imagines pas, mais en fait, quand tu vas au festival du sous-marin de la Compagnie du Poulpe, t'as des poulpes partout, de tout type. T'as des peluches, t'as des dessins.
Des tableaux.
Et y a pas un jeu comme ça où le but c'est de retrouver tous les poulpes et celui qui.
On avait fait une édition comme ça où la scénographe des chaises, justement, avait fait une échelle avec des jumelles et il fallait qu'on cherche un poulpe. Et on avait mis un poulpe à 5 km du sous-marin. Et en fait, on mettait des jumelles et il fallait chercher le poulpe.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est participatif, implicatif.
Et personne n'osait monter à l'échelle. Donc, je pense que ça n'a pas trop marché, notre truc.
Mais il faudrait réitérer l'expérience. Je pense que les gens sont plus courageux désormais. On n'a pas évoqué la lutherie sauvage, les marionnettes et la sortie en forêt. Voilà, encore d'autres propositions. On dormira bien le soir hein, dans les chambres du château. Qu'est-ce que sont que cette lutherie sauvage?
Alors la lutherie sauvage, c'est donc un musicien qui s'appelle Adrien Bertonnière qui va animer pendant une heure un atelier autour de la récupération des instruments. Et il va montrer en fait la tranche d'âge, c'est vraiment 6-10 ans. À partir de rien, on peut faire des instruments. Donc ils vont construire, tester toutes sortes d'instruments. Et puis la balade en forêt, c'est avec un herboriste. Donc là, il va aller justement dans la forêt de Briançon, du château. Et puis on va apprendre quelle plante est bonne, quelle plante n'est pas bonne, les plantes médicinales. Et l'atelier marionnette, donc c'est un marionnettiste de la compagnie qui s'appelle Erwan Méneret et qui va, lui, pendant 3 jours, vraiment faire un chantier de marionnettes où le public pourra, en fait, discuter avec lui, mettre la main à la pâte et il y aura plein de marionnettes poulpes à la fin. Et sa commande, c'est de faire une grosse marionnette sur le thème aquatique. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire encore.
Nolwenn, que penses-tu, le regard que tu portes sur ce festival que tu découvres en même temps que nous ce soir à l'écoute d'Anne Claire, le festival du sous-marin, c'est très intriguant, j'imagine, c'est à la fois enfantin et sérieux, on dirait.
Bah oui, c'est ça, ça a l'air super bien et puis le nom, déjà le nom, maintenant j'arrive à comprendre d'où ça vient et tout ça, donc ça a l'air vraiment super et ça permet de découvrir le théâtre, même pour ceux que, bah, comme moi qui s'y connaissent pas beaucoup finalement, donc ça a l'air assez accessible.
Et justement, Anne-Claire, le public visé, entre guillemets, c'est qui? Ce sont le public habituel, fidèle, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a une tranche d'âge particulière, plutôt familiale, plutôt hétéroclite?
Je dirais que les matinées sont plutôt familiales, parce qu'on a des spectacles jeunes publics, des ateliers pour les enfants. Donc, on est plutôt sur un public familial. Et le soir, on est sur tout public, vraiment, qui veut, vient. Il y a vraiment tellement pas de figues. Que public hétéroclite.
Et toi, sur cette édition, est-ce qu'il y a un point dont tu es particulièrement fier ou est-ce que déjà en termes d'organisation, on est bien là?
On est bien.
Un petit peu d'avance, c'est bon.
Oui. Là, on était bien cette année. En plus, on a embauché un chargé de communication qui s'appelle François Cortillo. Donc, on était en moins tout seul cette année. Et on est bien.
Ok, et concernant les infos pratiques, du coup, on les redonnera tout à l'heure, mais déjà, d'un mot, si on veut, j'imagine qu'il faut réserver, c'est peut-être certainement payant aussi, gratuit, au contraire, c'est quoi les infos pratiques?
Alors, cette année, c'est payant, l'année dernière, c'était prix libre, et là, on a mis 3 prix au choix, donc 5, 8 ou 10 euros. Et en fait, pour 5, 8 ou 12 euros, ou 10 euros, vous avez l'entrée au festival. Donc en fait, pour 5 euros, vous pouvez voir deux spectacles, un concert, participer aux ateliers. Donc, c'est assez royal.
Et après, il faut payer en plus pour les chambres au château.
Ah oui, par contre, il n'y a pas
le château,
la chambre.
Voilà.
C'est vrai, il n'y a pas la chambre. Et c'est vraiment pour le festival, quoi, pour ce qu'on propose, nous. Et tout est possible, c'est possible de réserver sur Helloasso, Compagnie du Poulpe, ou sur le site compagniedupoulpe.net.
Voilà, Nolwenn, sache-le, et apparemment 10 euros... Non, le prix gâteau, c'est quoi? Il y a le prix gâteau ou pas pour manger le gâteau le dimanche
gratuit, le prix gâteau. Le prix gâteau est compris dans la place.
Ah, bon, bah voilà.
Parfait.
T'as plus d'excuses,
ouais.
Nolwenn, on sait que t'aimes bien les pâtisseries, que tu rechignes jamais à manger une petite gourmandise. Voilà, ça, c'est les coulisses de l'émission. Sinon, merci Anne-Claire, on reste ensemble, bien évidemment. Tout à l'heure, on va partir en sport, mais avant tout ça, on a un autre invité de dernière minute, puisque justement on était censé avoir la minute sport, mais finalement ce sera un invité de dernière minute. Bonsoir Fahadi.
Bonsoir Pierre Benoît et bonsoir Anne-Claire. Je prends le temps de préciser qu'à chaque fois que la compagnie du Poulpe vient dans l'émission, c'est le moment où je suis invité dans Topette.
C'est pas fait exprès, je te promets.
C'est la famille.
J'aime bien c'est ça.
Et ben, le festival du sous-marin te tend les bras, Fahadi, n'hésite pas, c'est à partir du 19 juillet.
Félicitations pour l'évolution par contre, vraiment.
Ah, merci beaucoup.
Voilà, en plus c'est l'édition anniversaire, donc n'hésite pas si tu veux. En plus, tu peux dormir sur place. Nous, ensemble, d'un mot, là, rapidement, on va faire un petit bilan de GLRF, l'émission que tu animes destinée aux jeunes de 15 à 26 ans, me semble-t-il.
Même 30 maintenant, on a monté jusqu'à 30 parce que les actifs peuvent être aussi concernés par quelques astuces qu'on partage.
Alors ça, d'un mot, voilà, justement, pour présenter l'émission vraiment en une petite minute, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on y entend dans Gilles Arrive? Beaucoup de rire.
Beaucoup de rire. Alors c'est pour agrémenter le tout, mais le principe, c'est de partager des bons plans et des astuces pour améliorer le quotidien de nos jeunes angevins et jeunes angevines, donc sur la vie quotidienne et aussi sur des trucs sérieux comme l'emploi, la formation, l'orientation, et pouvoir nous partager des éléments concrets de la vraie vie pour s'y retrouver avec tout ce qu'il y a sur Angers.
Et cette année, c'était une nouvelle formule. On est passé en hebdomadaire le jeudi à 13h. Du coup, ça marche bien. On a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, hein, des réels aussi. Il y a des lives qui sont proposés. Ça, on cherche l'interaction aussi.
On cherche l'interaction parce que les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet. Donc, on va aller les quérir là où ils sont. Donc, on essaie de cette proximité-là. Et puis, toute mon équipe m'accompagne volontaire et bénévole sur ce volet-là. Et notamment sur les contenus. On essaie de repartager sur les réseaux sociaux pour apporter toutes ces astuces que nous on cherche au plus près des auditeurs et des auditrices.
Et c'est à double tranchant parce que du coup c'est pour les jeunes et en même temps tu impliques pas mal de jeunes au travers de tes bénévoles et puis même des services civiques. Là aussi la mission est remplie cette année.
Oui, parce que mine de rien on avance dans les âges et interagir avec des jeunes d'âges différents, ça permet d'être en lien aussi avec la réalité du terrain, la réalité des étudiants, la réalité des jeunes actifs, des personnes en recherche d'emploi et de pouvoir partager des astuces et des bons plans de manière réelle et concrète.
Nolwenn Seck, je vais lui poser une question. Elle est dans cette tranche d'âge largement, elle a le temps d'atteindre les 30 ans. J'ai la rêve, toi, t'as pu porter une oreille aussi sur cette émission.
Ouais, j'ai pu écouter quelques émissions en fond dans les bureaux juste à côté. Et moi, j'aime bien, c'est super, c'est toujours bien d'avoir des astuces comme ça qu'on sait pas où trouver parce que finalement, ces astuces, elles sont éparpillées partout, on sait pas où les trouver. Et donc, c'est toujours bien de tout rassembler dans une même émission.
Alors on prend deux minutes ce soir dans Topette parce que c'est la fin de saison pour tout le monde en ce moment. D'ailleurs Topette sera voilà jeudi, c'est la dernière de 2023-2024. Pour Gélaref aussi, c'est la fin de saison. Il en reste deux, c'est ça?
Il reste deux émissions, une la semaine prochaine au J Connecté où on se délocalise. J Connecté recueille de l'information jeunesse ici à Angers et la dernière émission va essayer de faire un truc un peu spécial, un peu festif pour terminer cette saison en beauté, faire un beau bilan avec les copains de partout sur Angers.
Alors le bilan, on peut peut-être commencer à... Peut-être qu'il se dessine dans les grandes lignes en quelques mots, en un mot peut-être, ce que tu as ressenti toi de cette saison qui est passée.
Belle progression, que ce soit de la part des équipes ou de la part du contenu qu'on a partagé. On se remet tout le temps, nous, animateurs, animatrices et producteurs d'émissions en question. Et là, j'ai trouvé qu'on a été encore plus proche des auditeurs et des auditrices que les années précédentes. Et c'est la recherche qu'on a, et aussi Radio G par rapport à sa proximité. Donc je suis très content de ça par rapport à mes équipes. Et sur l'année prochaine, essayer de poursuivre cette ligne qu'on a bien mise en place cette année et continuer à proposer des bons plans et des astuces parce que on en a toujours besoin.
Merci Fadi d'avoir pris deux minutes pour nous parler de Gélaref et puis suivez-les sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés si vous êtes des auditeurs auditrices de cette émission parce que il pourrait y avoir des évolutions encore, des changements, de nouvelles propositions à venir pour la saison prochaine, donc restez à l'affût. Nous on va partir en agenda culturel avec toi Tiffany.
Topette, l'agenda culturel.
Aujourd'hui, dans l'agenda culturel, on va parler musique et festivités qui marquent le début de l'été. Rap, jazz, chanson française ou rock, le 21 juin, c'est la fête et ça va battre son plein dans les rues d'Angers. Et pour fêter ça justement dignement, c'est le James Joyce qui va faire trembler ses murs. Le premier festival James Fest avec deux scènes et 6 DJ, de quoi passer la meilleure des soirées finalement. Et donc ça se passe dès 20h et tout y sera, bonne musique, bonne ambiance et une carte des boissons comme on les aime. Mais bien sûr on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. Et le festival Electro Garden compte bien aussi faire vibrer les jardins de Beaupréau. Cette année le rendez-vous musical est donné les 5 et 6 juillet. Au programme Boris Way, Maeva Carter, Alice April, Bioto, DJ Defra et Sarah Costa qui avaient mis l'ambiance au Freedom Night le 2 mars dernier. Et la billetterie du festival n'attend que vous, donc je vous laisse dès maintenant vous rendre sur le site d'electrogarden.fr. Et ça va aussi transpirer au Grand Théâtre d'Angers. Un concert olympique est organisé pour mettre à l'honneur les JO. Parce que oui, la date approche et comment célébrer l'heure avant l'heure? Eh bien, simplement en proposant un concert-spectacle. C'est la brillante idée qu'a eue le conservatoire qui permettra aux gros muscles de s'unir pour présenter par équipe un spectacle marathon. Une compétition, certes, mais qui reste amicale. Attention, je ne veux pas de blessés sur la conscience. Qui dit conservatoire dit musique, danse et théâtre, donc préparez-vous et que les meilleurs gagnent. Le concert olympique est donc à retrouver au Grand Théâtre les 28 et 29 juin. Et voilà, c'était le dernier agenda culturel de la saison. Je n'allais pas partir comme ça. Bon, je vais pas faire le même prank que l'an dernier, parce que je m'en souviens encore. Mais je tenais quand même à remercier Pierre Benoît pour m'avoir accueilli dans l'équipe de Topette pour l'année. J'ai pris énormément de plaisir à faire ces chroniques et à partager ces moments avec toute l'équipe. Et maintenant, je vais juste poursuivre mon petit bout de chemin. Et je suis quand même très contente d'avoir croisé la route de Radio G. Et qui sait, on se reverra peut-être. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bel été culturel.
Eh bien, merci Tiffany. Allez, on fait un petit tour par millième de seconde, le festival qui a cours en ce moment du côté de Saint-Mathurin-sur-Loire, décidément. Là aussi, alignement des planètes du côté de Loire-Authion. On vous renvoie vers les podcasts de la saison passée. On était avec Olivier Brajon.
J'ai commencé un petit peu bêtement, j'allais voir le patinage dans le public, je travaillais dans un laboratoire photo et un de mes clients faisait de la photo de patinage et m'a dit bah, « viens avec moi, fais-toi plaisir » et voilà, ça m'a permis de travailler avec l'équipe de France, de travailler avec ces merveilleux athlètes et de photographier une des disciplines qui est peut-être une des plus difficiles à photographier parce que cela va très très vite.
Olivier Brajon est une pointure de la photographie de patinage artistique. Son travail est régulièrement publié dans Patinage Magazine. Entre performance et émotion, Olivier met les sports de glace à l'honneur sur le festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire. Une interview réalisée par Pierre-Benoît Leclerc.
J'ai deux reportages différents dans la même journée. J'ai une partie backstage coulisses. Je fais beaucoup de noir et blanc côté coulisses. Que j'ai les bons accès, je vais dire, et je connais très bien les athlètes. Et après, la partie compétition que je fais en couleur. Donc, je fais la différence entre la partie backstage en noir et blanc et la partie événement en couleur. Et donc, après, comment je pourrais décrire mon travail? Le regard des patineurs. Souvent, ils me regardent, ils cherchent... je sais pas, une complicité. On a bien sûr qu'il y a une complicité entre les athlètes et le photographe.
Ça va très 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 vite, donc j'imagine que tu photographies en rafale.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui fait que tu vas garder ce cliché plutôt qu'un autre?
Alors souvent, je sais pas si vous regardez le patinage à la télé, donc vous voyez bien sûr que ça va très vite, mais on a aussi un autre problème, c'est que par exemple sur un saut, un patineur va tirer, il va faire une grimace incroyable. Et malheureusement, 9 fois sur 10, cette photo-là n'est pas exploitable parce que le visage est déformé. Voilà, donc déjà, souvent on se dit « Oh, une photo de saut, c'est génial, j'ai la photo du saut », mais la photo n'est pas exploitable parce que l'attitude, le visage du patineur n'est pas bon. Alors après, qu'est-ce qui fait une bonne photo? Déjà, il faut être prêt au bon moment. Parce qu'on peut pas dire « Attendez, j'étais pas prêt, est-ce que tu peux refaire le saut ?» Est-ce que c'est pareil dans tous les sports, hein. Si tu étais aux toilettes au moment où Mbappé a marqué un but, tu peux pas lui dire « Attendez, j'étais pas prêt et on va revenir ». Donc il faut déjà bien connaître le sport et bien connaître son matériel.
Est-ce qu'il y a une photo, un cliché que tu as réalisé qui a été plus marquant qu'un autre ou un souvenir de « entre guillemets séance » ?
Alors, j'ai surtout des athlètes que j'ai suivis un petit peu tout au long de leur carrière, comme Gwendal Pesra, qui est le parrain de l'événement, Philippe Candeloro, dont j'ai fait toute la tournée d'adieu. Donc ça c'est des gens que j'ai suivis pendant des années, ou les champions olympiques actuels, comme Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, que j'ai connus, ils devaient avoir une dizaine d'années. Donc, j'ai vu progresser jusqu'au titre olympique, jusqu'au Graal.
Je viens de tomber sur une photo de Michael Jackson.
Oui, ça c'est quand j'étais jeune avec des cheveux à l'époque. Ouais, c'est une des choses que j'ai faites, comme le Festival de Cannes, comme voilà. Ouais, j'étais jeune et alors, pour la petite anecdote, Michael Jackson était quelqu'un de très abordable. Alors justement, cette photo, pour la petite histoire, a été faite à l'hôtel Georges V à Paris. Tous les fans étaient dehors, donc il y avait à peu près 200 fans, les CRS et tout. Il faut savoir qu'ils sortaient pour signer des autographes aux barrières. Alors que ça paraît juste improbable de se dire « Ah ben on pouvait l'approcher, oui oui, tout à fait, c'était quelqu'un de tout à fait normal. »
Si on parle du festival maintenant, millième de seconde, quel regard tu portes sur cette initiative qui est proposée ?
Alors déjà, je trouve ça vraiment très bien parce que souvent les photographes de sport, on ne les connaît pas du tout. C'est vrai, on regarde rarement les crédits photos, donc voilà. Et puis c'est surtout l'occasion de rencontrer des collègues, parce qu'on ne se croise jamais. Il y a des photographes qui sont spécialisés judo, rugby, football, ou un patinage. On ne se croise jamais. Donc ici, il y a quelques pointures dont je connaissais les noms, Corinne Dubreuil, Philippe Milroy ou autre, Franck Seguin. Mais on ne se connaît pas vraiment. Donc déjà, pouvoir présenter son travail au public, c'est génial. Donc je pense que le cadre vraiment s'y prête très bien. Et je tiens aussi à remercier les équipes techniques parce que je me rends compte que le travail pour installer, c'est juste phénoménal.
Tu poses quel regard sur les évolutions depuis le début de ta carrière en tant que photographe? On évolue plutôt vers quelque chose d'agréable ou il y a aussi les technologies qui arrivent, le travail de la photo qui peut être retouché? T'as quel regard sur tout ça?
Alors déjà, moi à mon niveau, je retouche très peu les photos. Donc c'est juste du recadrage, un petit peu de luminosité, de contraste, mais vraiment très très peu. Le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'on peut être en photographe moyen et très bon en informatique. Donc je dirais que de ce côté-là, le métier a évolué. Et souvent, la question que je me pose, c'est comment va évoluer le métier? Maintenant, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses. Moi, je vois, par exemple, le dernier boîtier que j'ai permet de faire 120 photos à la seconde. Est-ce que c'est encore de la photo? Pour moi, non.
C'est plus facile de saisir l'instant, du coup.
Tout à fait. Mais après, il faut trier les photos aussi. Faire la photo, c'est 25% du travail. Après, on doit les légender, on doit les retoucher en minimum, on doit les transmettre aux médias. C'est ça, souvent, moi, les gens, ils me disent, mes amis, ils me disent, ben, on t'a vu à la télé, c'est bien, t'as bien profité de l'événement. Ben non, on n'en profite pas vraiment. On est là pour travailler, on arrive avant. Le soir, en rentrant à l'hôtel, on doit retoucher les photos, les envoyer. Ben, les journées sont longues.
Alors, on profite pas de l'événement, on doit trier énormément de photos pour en garder quelques-unes qui sont même pas sûres d'être conservées pour être diffusées ensuite. Et si elles sont diffusées, on nous connaît même pas, nous, en tant que photographes. C'est pas très avantageux, j'ai l'impression, comme profession.
Mais a-t-on envie d'être connu? C'est ça la question. Moi, perso, je pense que souvent, je me cache derrière l'appareil photo. C'est un métier passion avant tout, il faut pas compter les heures parce que sinon, faut faire autre chose, quoi.
Et justement, imaginons que des jeunes photographes t'entendent actuellement, tu leur apporterais quel conseil, toi?
Mais déjà, regarder travailler les autres. Moi, j'ai appris en regardant travailler les autres. Au début, je ne savais pas où me placer et tout, et c'est en voyant des grands noms de la photo, comme Gérard Van Dijkstad, entre autres, ou Richard Martin, j'ai regardé comment ils se plaçaient, puis au début, je me mettais à côté d'eux, j'ai demandé des conseils. Il faut pas oser, faut pas avoir peur de poser des questions. On est là aussi pour ça. On a tous débuté, donc il n'y a pas de honte à faire des erreurs.
Des qualités essentielles à avoir?
Mais faut être patient, faut savoir attendre. Souvent. Parfois, on attend la photo. Voilà. Parfois, on la subit aussi. Mais j'ai déjà la chance de faire un sport où, malgré qu'il fasse un petit peu frais dans les patinoires, on est à l'abri. Souvent, je pense aux photographes de foot ou autres qui sont à l'extérieur ou de ski, qui sont dans la neige. Et là, il faut encore d'autres qualités parce que le froid ou l'humidité, c'est pas bon ni pour l'homme ni pour le matériel.
Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à que ce soit ton métier ou par rapport au festival?
Alors déjà, je voulais remercier aussi les sportifs, parce que sans sportifs, il n'y a pas de photo. Et une chose importante aussi que souvent on oublie, remercier les parents de patineurs. Parce que quand on est champion, tout va bien. Mais avant d'être champion, il faut faire des petites compétitions le week-end, il faut que papa-maman vous amène à l'autre bout du département pour faire la petite compétition régionale. Et tout ça, c'est un certain coût. C'est aussi beaucoup de temps passé sur les routes. Et souvent, comme je dis, s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de champions.
Merci beaucoup, Olivier.
Avec plaisir.
Le festival millième de seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Et oui, le sport. Et d'ailleurs, c'est en ce moment le millième de seconde, encore une fois. Fadi, toujours avec nous. Fadi, d'un mot, j'ai la ref. Qu'est-ce qui est important de retenir sur la suite, la fin de saison aussi?
Eh ben, si vous le souhaitez, vous nous suivez jeudi à 13h pour récupérer tous vos bons plans et vos astuces pour votre vie de jeune à Angers.
Parfait, comme Nolwenn par exemple, qui est une jeune à Angers. Anne-Claire, qui est une jeune également, mais du côté de Bonnet plutôt, hein, on parlait du festival Le Sous-Marin, 5e édition de la Compagnie du Poulpe. Bon, on a tout détaillé un petit peu dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui est important de retenir sur l'âme de ce festival, de cette édition particulièrement ?
Eh bien que le stage de théâtre est ouvert du 15 au 18 juillet pour le marathon théâtral au château de Briançon. Et qu'ensuite, il y aura restitution au festival et que les billetteries sont ouvertes.
Voilà, et on les retrouve sur vos sites, sur le site internet, sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Hello Asso, Facebook, Insta, etc., etc.
Et en description de ce podcast, et Radio G sera présente à partir de 18h30 le 19 juillet au château de Briançon. On reviendra le dimanche pour le gâteau.
Oui, venez, venez.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir dans Topette. Et on vous laisse avec la case de Seb. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
Topette. Topette.